RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Louis Tour.
On est là avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, comme tous les lundis, les drôles de dames sont là. Nous avons Fred Hermel en Espagne, salut Fred.
Hola chicos.
Philippe Auclair en Angleterre, salut Philippe.
Good evening Jean-Louis.
Simone Rovera pour l'Italie, salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Et David Lorto pour l'Allemagne, salut David.
Allo Fred, salut Jean-Louis, salut à tous.
Bon, messieurs, vous allez bien? Simone n'a toujours pas de président de la Fédé, hein. Vous avez vu faire une
c'est mal,
on en parlera pas
besoin, il n'y a rien à gérer.
J'ai du mal en pis.
Moi je propose Daniel Riolo comme président de la Fédération.
Ah oui?
Bah oui.
Attends, tu m'attendras parce que moi, il y a peut-être trop la boîte de ma boîte d'agence.
Ça, c'est sûr que là, tout se redresse. Hein.
Ah oui?
Ah bah évidemment.
Même en Italie.
Il va nous casser la vidéo, mais moi, je préfère sans la vidéo, mais avoir Daniel comme président.
D'accord. Voilà. Surtout. Hein.
Qu'est-ce que tu ferais en premier?
C'est pas le président de la FED qui décide pour la vidéo dans le championnat là-bas.
Ben, mais tu sais que c'était l'ancien président avec eux qui avait appelé Blatter avant et après Seferi.
Donc t'avais que les conneries, les a accumulées.
Qu'est-ce que tu ferais, Daniel, en arrivant tout de suite? À part embaucher Simone.
Pourquoi pas?
C'est un petit peu long, mais le chantier est vaste. Mais je sais exactement.
Il n'y a pas un truc que tu ferais tout de suite?
Ah, bah déjà, je me mets en quête tout de suite du sélectionneur, déjà.
Tout de suite. Commence par là.
D'accord. Et après, à Coverciano, au centre d'entraînement, je vais voir comment on remet en place toutes les écoles de formation des jeunes et tout ça. Hein.
Et voilà. Bon après, il y a qu'en Italie où t'as de vrais chantiers, parce que les autres footballs se portent quand même bien. L'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne.
Bah, on a un gros problème avec le président, nous, parce qu'on en a un qui est le vrai président, il est mis en examen, il est en liberté sous caution. Donc, il y a un vice-président intérim, là, intérimaire, voilà, puis il va y avoir des nouvelles élections et tout ça, c'est pas terrible non plus, hein. La Liga, ça marche super bien.
Oui, voilà, l'état du foot espagnol, ça va.
Non,
quand même.
Ça va, la Liga, ça va super bien. Mais la fédération, c'est terrible. Les arbitres. Et les arbitres aussi. Les arbitres aussi en Espagne, qui sont gérés par la fédération. C'est une catastrophe. Ouais. On a encore vu hier dans le match du Barça. Quoi.
Avec la vidéo, il n'y aura plus de problème en
une
Espagne.
Petite chose,
non, mais ils ont dit qu'ils allaient attendre que ça se plante ailleurs. Ça ne sert à rien qu'on dépense de l'argent si tout le monde va arrêter dans deux ans. Donc ils attendent.
Je vais faire rigoler beaucoup Fred. Mais vous savez, on n'a même pas la précédente de la Ligue. Je vais en parler plus tard. Mais il y a un homme qui était proposé pour devenir président de la Ligue italienne de football. C'est Javier Tebas.
Ah, Javier Tebas.
C'est vrai.
L'ami de Fred.
Donc non, imaginez. Il est très fort. Le président espagnol qui vient à la poubelle en Espagne et on le reprend nous.
Ça aurait été marrant.
Ça, c'est pour la photo du foot italien en ce moment.
Ouais, imaginez. C'est assez révélateur, ouais.
Tu sais, Simone, que Tebas, en fait, il a une mauvaise image parce qu'en plus, il aime bien les caméras.
Mais il a bien travaillé.
Il a bien fait déclaration. Mais il a super bien travaillé en Espagne. Ouais, ouais. Je veux dire, en Espagne, t'as plus un cri raciste dans les publics. Il a viré tout le monde. Il a nettoyé pas mal de choses. Les droits mutualisés qui ont quand même équilibré ce championnat, c'est lui qui a réussi à l'imposer au Real au Barça. Alors que tous les autres présents avant s'étaient cassés les dents. C'est lui qui, par exemple, a créé des ambassadeurs de la Liga dans le monde entier. Il y a par exemple comme Français Tacarembeu dans le monde entier qui font un travail merveilleux. C'est lui qui a permis au football espagnol de se vendre beaucoup mieux.
Non mais t'en as souvent parlé en bien, effectivement.
Ouais. Non mais c'est vrai, c'est le truc.
Après, c'est une bonne nouvelle.
Faisons comme les coachs, prenons Tebas, ce choc psychologique sur une courte période.
Bon, je file ce numéro comme ça quand il devient président, je rappelle.
Premier avis tranché du soir, on va en Espagne.
Eh ben c'est l'histoire d'un mec.
Voilà, c'était la vitrange la semaine dernière.
Il y en a pas en double là.
Non, aucun. Putain. Et à l'arrivée, on a fini avec Nacho. Hein. Attention l'histoire quand même.
Comment il va Nacho, Fred?
Bah il va bien, il a fait un très bon match à Valence là. Excellent.
Ah oui, d'accord.
Ah ouais, vraiment, il avait pas été bon en couple mais à Valence
c'était c'est le joueur parfait en même temps, tu nous l'avais dit.
C'est bah oui, c'est pour ça. Bah, je te dis, on en reparlera le 14 février au soir.
Ah oui, c'est sur Valverde, pardon, c'est pas sur Nacho.
On m'a parlé du syndrome du commentateur, tu sais quand t'enflammes un joueur pendant un match et que comme par hasard 15 secondes après il se loupe. On m'a dit qu'après ton avis tranché, il avait fait une cagaille.
En couple, il a pas été très
c'est vrai, il a fait une cagaille, mais tu sais que moi une fois j'ai dit j'ai critiqué Cristiano Ronaldo et j'ai l'air d'un con après il en a mis 3 contre le Bayern. Dans les 5 minutes qui ont suivi.
Bon Fred, tu veux nous parler de Leganés, pourquoi?
Bah oui, parce que c'est l'histoire d'un club. Bah, en fait, vous allez dire que moi, j'en ai un peu marre parfois quand j'entends des présidents de gros clubs de Ligue 1 qui se plaignent du Paris Saint-Germain en disant oui, le PSG, ils ont trop d'argent, c'est pas équilibré, tu sais, qui pleurnichent tout le temps, etc.
Ah bah nous, le championnat des ouin-ouin.
Bah ouais, c'est les manches de ouin-ouin. Alors moi, je voudrais leur parler de Leganés. Alors vous allez me dire, oh Leganés, bah attendez, mais Leganés, vous savez, leur budget c'est 45 millions. C'est bien 45 millions.
Ah c'est ouais, pas mal. Attends, ouais,
faut replacer. Non mais il faut replacer ça dans la perspective, dans le contexte du football espagnol. Il y a quand même beaucoup plus d'argent. C'est quand même la meilleure Liga du monde. Parce que vous savez ce que c'est 45 millions? Parce que Leganés, son budget annuel, c'est moins de la moitié du salaire de Messi. Donc ça remet quand même en perspective. Hein. C'est pas non plus très très facile pour eux. Ben Leganés, avec peu d'argent, c'est un club traditionnellement de Segunda B, donc de troisième division, qui a fait quelques années en deuxième division. Puis là, ils ont fait un beau projet, sans beaucoup d'argent, hein, simplement en faisant des choses intelligemment. Ils sont montés en première division, puis ils se sont maintenus. L'an dernier, c'était leur première saison parmi l'élite, ils se sont maintenus. Et là, non seulement ils se maintiennent, mais avec un bon coach, Garitano, que personne vraiment connaissait, avec des joueurs qui ont fait des montées avec les Galets, les deux montées, avec des joueurs qui sont hyper impliqués, avec une idée de football très claire en disant on pète pas plus haut que notre cul. On sait très bien qu'on peut pas jouer comme le Barça de Guardiola, mais on a envie de s'amuser quand même. Bah on fait de belles lignes de 4, voilà, c'est bien organisé, c'est sérieux, on se prend pas trop au sérieux, on veut pas jouer les riches quand on a pas le sou, comme chantait Jacques Brel. Puis les Galets, qu'est-ce qu'ils ont fait l'autre jour? Bah, ils ont viré le Real de la Coupe en quart de finale. Ils sont allés s'imposer à Bernabeu après avoir perdu une semaine auparavant sur leur pelouse. Et puis là, ils ont encore gagné contre l'Espagnol. Ils sont bien installés au beau milieu de la première division. Ils ont quasiment assuré leur maintien parmi l'élite. Et les Ganès, j'insiste, pour tous les gens qui ne parlent qu'argent, qui ne disent que ah, on n'a pas les moyens de lutter, les Ganès aujourd'hui est en train de faire un parcours merveilleux. Ils sont en demi-finale, ils vont jouer demain mercredi contre Séville, la demi-finale de la Coupe du Roi. Ils sont très bien placés en Liga. Et cette équipe de Leganés a un budget qui représente, j'insiste, moins de la moitié du salaire de la star de la Liga qui s'appelle Messi. Arrêtez de pleurnicher les mecs.
Fred, ça me fait penser un peu à quand tu me parles de projets cohérents avec moins d'argent que les autres, un beau parcours en coupe, ça me fait penser un peu au SCO d'Angers en France.
Ah, c'est marrant ce qu'on disait sur le hashtag RMC Live. C'est la bonne comparaison.
Bah, tu sais, Angers a fait une finale de Coupe de France, ou de Coupe de Ligue, attends, je sais plus. Coupe de France ou Coupe de Ligue? Coupe de France? Simonet? Bon, un des deux.
Coupe de France, oui, parce que c'était PSG Monaco.
Coupe de France, les comptes Coupe de France. Et puis voilà, et puis le Angers est là en Ligue 1 depuis un petit moment maintenant, quoi. Ça, un peu avec les mêmes bases, quoi. Un projet de jeu cohérent par rapport à ce qu'ils ont, quoi.
On ne voit pas trop le projet de jeu. Mais parce que là, toi, ton avis tranché, il s'en prend un peu à notre football. Mais est-ce que en Espagne,
le football, non, mais
j'ai mal compris. Mais est-ce que en Angleterre, dans vos championnats, il y a cette tendance à la chouinerie permanente ou pas?
Ouais. Je commence avec l'Italie parce que pour te dire, les on a parlé tellement bien de Sarri pour son jeu. Mais depuis des années, il pleure tout le temps. On parle de budget. Oui, nous on peut pas être compétitif face à la Juve qui a certains budgets. Ce qu'on fait, c'est extraordinaire parce qu'il y a ces budgets.
Le 1-1, c'est un peu partout. Quoi.
Oui.
En Angleterre aussi, il y a de la chouinerie.
Écoute, ils sont pleins aux as, la plupart d'entre eux. La chouinerie, c'est...
Là, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Hein.
Oui, c'est ce que j'allais dire, mais la chouinerie, on y a eu droit de la part de José. Hein,
José, c'est un City.
En même temps, vous avez vu ce qui lui est arrivé, c'est dur quand même. Financièrement, il a eu du mal, lui, à rivaliser.
Pour chouiner avec ce qu'il a, il faut y aller quand même.
José,
c'est
la mort.
Mais ça relève la différence de, je dirais, de ressources, ça c'est normal. Mais ça chouine pas trop, non.
Et en Allemagne,
je te dis, ils sont pleins aux as.
En Allemagne, ça chouine sur le dos du Bayern.
Ah bah oui, et puis particulièrement cette saison où les records vont en plus s'enchaîner. Donc oui, quand même, oui, bien sûr. Mais ça, c'est une religion nationale en Allemagne, vous le savez. C'est-à-dire que vous vous déplacez un peu dans les places fortes que sont les villes en région, surtout dans un État fédéral comme ça. Vous allez dans la Ruhr, vous allez à Francfort, vous allez dans les villes de l'Est, vous allez à Hambourg, vous allez même dans le centre même de Munich, pour Munich 1860, bien sûr que ça chouine en permanence contre le Bayern, de façon parfois tout à fait fine et justifiée, et de façon parfois lourdingue, évidemment.
Il y a un truc quand même en Espagne, Fred, pour revenir à toi et à Leganés, c'est que on met en avant le budget, on met en avant les différences de moyens, mais dans le jeu, quand ils jouent des gros, ces clubs-là, comme Leganés, il n'y a pas de... parfois en France, on dit il y a une espèce de soumission psychologique avec le PSG. Il y a moins ça.
Ah bah, attendez, Leganés, ils perdent 1-0 chez eux contre le Real la semaine dernière, enfin il y a deux semaines. Ils viennent à Bernabéu. À Bernabéu quand même, il y a des gamins qui n'ont jamais joué là dans un stade aussi grand quand même dans leur vie quoi, tu vois. Ils sont là et t'as leurs supporters qui chantent si c'est poédé, oui on peut, oui on peut. Ils marquent le premier but. Donc ils reviennent à un partout dans la qualification. Benzema égalise et les mecs ils continuent, ils marquent le deuxième but et ils arrivent à tenir 90 minutes avec le 2-1 et à se qualifier quoi contre un Real en plus qui pouvait pas lâcher la coupe parce qu'ils avaient déjà perdu la Liga quoi. Je veux dire qu'ils ont tenu pendant le dernier quart d'heure du Real où il y avait quand même des coups de boutoir etc. Ouais. Où t'avais Ramos qui était attaquant de pointe numéro 9 qui attendait les centres pour reprendre de la tête etc. Il y a pas ce sentiment, ce complexe d'infériorité chez des petits clubs notamment en coupe. Voilà.
Bon, on va enchaîner sur le reste de l'actu mais juste avant quand même sur les Leganés.
Moi j'ai une question de quiz sur les Leganés.
Ah vas-y.
Ouais, c'est un des plus grands attaquants de notre âge. Fred, tu connaîtras bien évidemment la nouvelle tout de suite, la réponse tout de suite, mais qui a commencé à jouer au Real Madrid et qui ensuite est passé dans ce club où il a marqué 4 buts en 30 matchs. Il est devenu l'un des plus grands joueurs de notre époque. De qui s'agit-il?
Et c'est au Real qui s'est révélé?
Non, c'est pas au Real qui s'est révélé. C'est dans un autre club espagnol. Oh mais c'était pas au Real, mais il a commencé par le Real et ensuite allé à Leganés.
C'est compliqué ton truc là.
Réponse tout à l'heure. Donc vraiment un des grands joueurs de notre époque.
Ah bah non, mais moi je le veux.
Je vois un silence.
Non, faut dire maintenant, parce que là
qu'est-ce que t'appelles notre époque
Ah bah je te dirais les 20 dernières années. On va dire les 20 dernières années.
Non, mais dis-le.
Samuel Eto'o.
Samuel Eto'o, fils. Bah oui, parce que Samuel Eto'o. Bien sûr.
C'est à Majorque, mais.
C'est vrai qu'il avait été prêté à Leganés parce qu'il arrivait à 14 ans au centre de formation du Real Madrid. Il avait fait des allers-retours, tout à fait.
Oui, il y avait le dénommé Macou Koula qui est passé par Leganés avant d'aller à Nantes. Voilà.
Et vous savez,
José Chamotte.
Ah oui. Non mais alors attends, sur Leganés, moi je voulais dire quand même, Fred, j'ai zappé deux secondes, je vous raconte ma vie ce week-end. Vas-y. Sur le match de Leganés contre l'Espagnol, et là c'est quand même le foot espagnol. Hein. Bon, Fred il en fait des tonnes tout le temps, mais moi je suis un peu plus objectif. Mais là, tu vois un but où il y a un extérieur du pied magnifique, une tête au second poteau, et voilà. Le deuxième but.
Même le match en lui-même
était magnifique.
Il y a des belles choses.
Et on parle du 12e contre le 14e, donc.
Non mais c'est ce centre extérieur du pied droit là, pour la tête au deuxième. Non mais c'est sublime. Tu vois, j'ai pas voulu en rajouter, hein. Mais c'est vrai que. Mais aussi, pourquoi les joueurs, vous savez pourquoi les joueurs n'ont pas de complexe quand ils jouent en coupe? Parce que la base de la formation est à peu près la même. Même les mecs qui sont en deuxième division, ils ont été formés avec les meilleurs qui sont en première division. Comme il y a beaucoup d'Espagnols en championnat espagnol. Donc ils ont une base technique qui est très élevée, qui fait qu'ils se retrouvent face à Modric, ils se sentent pas inférieurs techniquement. Ouais, ouais. Même si Modric c'est au-dessus, mais tu vois, ils se sentent pas dénigrés, quoi.
Avançons un peu dans l'actu. Griezmann, bonne nouvelle pour l'équipe de France qui confirme son bon retour.
Il confirme, il a marqué un but en contre là, tout en puissance. Voilà, une très très beau contre sur une passe de Juan Fran avec un but qu'il a marqué avec beaucoup d'assurance. On sait que c'est une saison compliquée pour Griezmann. C'est sa dernière saison à l'Atlético. La relation avec Simeone, elle est vraiment pas très bonne. Mais comme Griezmann, c'est quelqu'un qui a un côté un peu innocent quelque part. En disant un peu encore très enfant, où il oublie ses problèmes et puis il joue, il est content, il est 4 mois qu'il va encore faire l'Atlético, il en profite à fond. Bah c'est mieux que d'avoir un mec qui se prend la tête parce qu'il va arriver à la Coupe du Monde dans un très bon état. Et puis l'Atlético aujourd'hui est deuxième, ils sont compétitifs, ils sont plus qu'en Ligue Europa, mais enfin l'objectif c'est quand même de la gagner. Donc c'est un joueur qui sera dans la compétitivité et dans le goût pour le football jusqu'à la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nous que Griezmann. On le sait qu'il va partir, ne fait pas une fin de saison de merde à l'Atlético.
Ouais. Victoire 3-0 contre Las Palmas, donc pour l'Atlético. Ouais,
c'était bien.
Et puis donc quand même, l'un des événements du week-end, c'est le Real malade, le Real en difficulté, qui va quand même gagner chez la révélation.
Ah, dans un gros match en plus.
Ouais. C'était bien, franchement.
Oui, c'est un bon match. Ouais.
Ouais, c'est un bon match et surtout c'était.
Qu'est-ce que tu crois qu'il s'est passé avec Valence? Tu crois qu'ils se sont dit, ils se sont mis un peu de pression supplémentaire, genre c'est une bête blessée, on peut gagner le match, ils l'ont gagné avant de le jouer. Comment tu vois le truc? Ou vraiment le Real a été énorme et ils les ont déglingués?
Non, mais le Real,
Zizou, déjà, il y a des faits de jeu, frère, dès le début, qui les mettent dans le bon sens.
Ouais, enfin, les deux,
bah, les faits de jeu, il y a pénaux.
Oui, non, mais je veux dire, ça les met dans le bon sens, quoi.
Non, ça les met dans le bon sens. S'ils les ont obtenus, les pénaux, c'est qu'ils étaient dans la surface.
Oui. Non, puis, enfin, en gros, cette équipe, c'est l'équipe avec la BBC. Donc, les mecs étaient ultra motivés. C'est la première fois, quand même, de cette saison, même depuis le mois d'avril, que la BBC a pu être alignée ensemble. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours eu des blessures, donc alignés ensemble d'entrée.
C'est la première fois?
Ouais, c'est la dernière fois, c'était contre le Barça au mois d'avril dernier. Parce qu'entre les suspensions de Cristiano, les blessures de Bale, les blessures de Benzema, ils n'ont pu être alignés depuis le début du match que hier, qu'avant-hier. Et ils ont,
et on redécouvre que c'est pas mal comme attaque.
Bah, surtout que ça va très vite. Non, mais moi, j'adore Isco. J'adore Isco. Je dis bien, mais Isco, il a un style de jeu.
Ça se fait pas tous en même temps, juste. Oui, Pierre, tu me disais.
Ouais, vas-y, Pierre.
Non, je dis, ce qui est fou, c'est qu'on parle de l'Espagne tous les lundis, on regarde les matchs tous les week-ends, mais j'avais pas fait attention. Que effectivement ces trois-là n'avaient pas été alignés ensemble cette saison.
Ceci peut-être peut expliquer, même si c'est pas la raison
Bale,
de tout.
Bale, moi je comprends pas que ce mec soit à ce point sous-estimé.
Mais je trouve que c'est un joueur
extraordinaire, et quand à chaque fois on relativisait ses absences, parce que le Real pouvait aussi avoir des résultats sans lui, mais quand il est là, enfin, c'est un joueur fabuleux, quand même.
Non, mais ça a une vitesse.
Et surtout, est-ce que dans le match, il n'y a pas eu aussi le fait que Valence était un peu fatigué, non, quand même?
Ouais, alors, c'est ce que j'allais dire. Valence a joué tir au but, enfin, voilà, prolongation et tir au but, mercredi soir à Vitoria contre Alavés. Ouais. Donc à la fin, ils étaient un peu crevés.
Ouais,
mais il y a
cramé,
eu un moment, après le but du 2-1 marqué par Valence, enfin du 1-2 marqué
ça
par Valence.
Ça les a requinqués.
Ça les a requinqués. Il y a eu 20 minutes. Et là, en fait, c'était une très bonne, une très bonne répétition pour le Real, qui dernièrement, en deuxième période, dès qu'ils étaient un peu bousculés, s'écroulaient. Là, ils ont fait le dos rond pendant 20 minutes, et ils ont repris, ils ont marqué deux buts, ils ont gagné 4-1. Là, on est, au Real, on est dans quoi? On est dans la préparation du match contre le PSG. Donc, contre Valence, c'est un vrai test. Tu vas jouer à Valence, troisième de la Liga, qui est devant toi en Liga. Déjà, t'as besoin des points pour rester quatrième, pour aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et en plus, tu te prépares pour le match du PSG. Donc, plus le rival sera compliqué, mieux ce sera pour le Real pour se tester. Et Zizou a, il le savait parce qu'il voit à l'entraînement, mais ce qu'il a beaucoup aimé dans ce match, c'est qu'il a vu que les joueurs, on sait que les joueurs croient en lui, mais que les joueurs croient encore en eux-mêmes. Et ça, en leur jeu, en leur capacité à faire ce jeu très, très rapide, avec des transitions très rapides, avec des 1-2, avec des premières touches de balle, etc., des gens en première intention. Et là, le match de Valence a été très rassurant pour le Real Madrid. Mais le problème, c'est que le professeur Real Madrid a fait des grands matchs cette saison, mais il a toujours été incapable d'enchaîner. Est-ce qu'il sera capable d'enchaîner plusieurs fois comme ça? Il y a encore deux matchs jusqu'au PSG, ça, c'est la grosse question. Réponse samedi prochain.
Les matchs à Valence. On a aussi des matchs tests, hein. Nous, en Ligue 1, le PSG a été abattu la meilleure défense de Ligue 1, t'inquiète pas.
Des Montpellier, oui, effectivement.
Allez, on reste là pour l'Espagne. Ça sera un problème à un moment ou à un autre.
Pour qui ce sera un problème?
Non, mais je veux dire,
ils ont quoi comme gros match d'ici le 14 février?
Bah, rien, il est vanté.
Il est vanté, après ils reçoivent la Real Sociedad qui va pas bien du tout.
Voilà. Et c'était quoi le problème? J'ai pas entendu, Fred.
Non, mais le problème, c'est que c'est plus facile pour le Real de se tester en Ligue 1 que pour le PSG de se tester.
Ouais, bien sûr.
Tu vois? Allez, on en reste là pour l'Espagne,
Fred. Il faut qu'on enchaîne dans un instant la vie tranchée de Simonet sur le Milan, plus celui de Philippe Auclair sur la Cup, la Coupe d'Angleterre. A tout de suite dans l'After.
RMC, le super football show. L'After Foot, Jean-Louis Tour.
Daniel Riolo et Pierre Ducrot sont avec nous, plus nos drôles de dames. On était sur l'Espagne juste avant. On a l'Allemagne et l'Angleterre qui se préparent, mais place tout de suite à l'Italie.
Il y a Alexis Sanchez.
Chapeau 4.
Alexis Sanchez,
c'est pas possible. Il est à Arsenal. Il est pas au Real Madrid, monsieur.
Et là, il est
Aubameyang, chapeau 4, alors?
Ah oui, Aubameyang.
C'est les résultats qui parlent. C'est les terrains qui parlent. C'est pas le mercato.
C'est
pas les prix ou du transfert ou les salaires. Sinon, la Betsy, c'est chapeau 1 toute la vie. Hein. Avec les salaires qu'il prend encore en Chine.
Et à une époque, Andy Carroll aurait été chapeau 1.
C'est exact.
C'est vrai. Alors, Simonet, tu veux nous parler du Milan?
Oui, parce que j'ai des bonnes sensations, j'ai un bon espoir. Ça, c'est un club.
Il se passe un truc, il y a un frémissement.
Il y a un frémissement. Moi, je suis arrivé ici les jours où Gattuso est devenu entraîneur. J'exprimais tous mes doutes sur la qualité d'entraîneur de Gattuso. Et là, j'ai encore quelques doutes parce que c'est pas encore un entraîneur pour un grand club.
Pour l'instant, c'est un peu coaching à la Burn, quoi.
C'est un coaching qui marche bien.
Les Burn Légas.
C'est quelqu'un qui fait bouger
Gattuso,
les joueurs. Je vais pas dire que il va faire une Pascal Duprat dans l'opération Commando pour sauver Toulouse.
Ah, c'est devenu une référence même en Italie?
Non. Mais je connais quand même.
Donc, si tu peux respecter l'expérience bien plus grande de Pascal Duprat, s'il te plaît, merci.
Mais c'est quelqu'un qui entraîne, qui peut-être est au bon endroit, au bon moment. une petite stat, ça faisait un an que Milan n'avait pas gagné 3 matchs d'affilée. C'était février 2017, la dernière fois, de février au début mars 2017, qui n'avait pas gagné 3 matchs d'affilée.
En fait, que là, ils ont battu la Lazio.
Ils ont battu la Lazio, oui, c'est vrai, avant, ils ont battu Crotone et Cagliari.
Là, ouais, mais battre la Lazio, c'est pas mal. C'est pas mal.
Une bonne équipe, avec un match bien joué pour 60 minutes. Et dans les 30 dernières minutes, quand la Lazio a fait ce qu'elle voulait à San Siro, ils sont réussi à résister, à tenir. Ils ont retrouvé même un Donnarumma qui, depuis le début de la saison, il s'est montré plus pour ses erreurs que pour ses grands arrêts. Là, face à un adversaire, oui, qui n'avait pas immobilé, qui est blessé, mais quand même, c'est toujours un adversaire qui joue un des meilleurs footballeurs en Italie, qui est troisième. Ils ont été capables d'éteindre. Et on a vu vraiment une Milan qui avait une raison d'exister, je ne sais pas comment expliquer, mais il jouait bien au milieu de terrain, ça fait tourner les ballons. Devant, il était efficace. Et derrière, ne tremblait pas. J'ai vu un Bonucci qui, depuis le début de saison, était catastrophique, être solide. Pas encore le Bonucci de la Juve. Là, il faudrait ouvrir en parenthèse pour dire comment c'est la Juve qui rend les joueurs meilleurs, plutôt qu'un joueur qui est bon et qui arrive à améliorer la Juve. C'est la Juve qui améliore les joueurs, pas les joueurs qui améliorent la Juve. Et Bonucci est en train de redevenir un joueur dont on s'est rappelé. Un joueur qui mérite d'être dans les 30 du Ballon d'Or.
Oui, qu'on avait oublié un petit peu quand même.
Voilà. Mais ça, parce que tout est plus logique au Milan. J'ai rien contre Montella qui est en train de faire des choses plutôt bonnes à Séville, mais il n'arrivait pas à trouver la solution. Gattuso, il a trouvé la solution. Il n'a pas changé de système à chaque match. Il n'est pas en train de changer des compos à chaque match. Il a mis des joueurs où il fallait les mettre. Il a redonné confiance à une équipe qui n'avait plus. Surtout quand tu as des changements, des joueurs parfois 6 ou 7 sur chaque match. On rappelle qu'il s'en arrivait 11 joueurs nouveaux sur le mercato d'été, qui ça montre qu'il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'argent, mais aussi l'idée de tout changer. Et quand tu es un entraîneur qui a terminé une saison, que tu cherches à donner continuité, et tes propriétaires te disent non, il faut tout changer, c'est pas simple de redémarrer une saison. Et après, tu as des surprises. Il faut parler, je n'ai jamais parlé cette saison, mais Cutrone, c'est un attaquant qui arrive de la Primavera, c'est un garçon du 98, donc c'est un garçon qui fait 20 ans cette année, il a déjà marqué 10 buts cette saison, entre Europa League, Coupe d'Italie et Championnat, et c'est les joueurs qui ne comprennent pas, mais il est décisif, et il est décisif dans les matchs importants. Il marque face à la Lazio, le but qui qualifie Milan en Coupe d'Italie face à l'Inter. Donc,
il est souvent enrhumé, il paraît, non?
Il a la coutronné.
Goutonné.
Malheureusement, c'est lui qui est souvent enrhumé, entre guillemets. C'est André Silva, un joueur qui est arrivé pour presque 40 millions cet été, et dont on a découvert que sur 40 millions, 10 c'était des commissions pour un agent très important.
Un saloperie d'agence.
Et voilà. Donc, je vois Milan qui est encore à 10 points de retard de la 4ème place. Mais qui pourrait faire des bonnes choses, pourquoi pas l'Europa League, qui joue une demi-finale aller des Coupes d'Italie, c'est mercredi, et encore face à la Lazio. Et donc je vois Milan qui peut terminer la saison beaucoup mieux de comment on le trouve en ces moments. Et s'il peut terminer bien la saison, il faut aussi dire qu'il y a deux clubs qui sont en train de vivre une catastrophe, une misère. Les premières, c'est l'Inter, qui peut-être a trop bien joué ou trop eu des bons résultats en première partie de saison. Et là, ça fait 9 matchs sans victoire. Imaginez un grand club qui reste 5 matchs sans victoire, les bases qu'il peut faire dans n'importe quel championnat, en France, en Angleterre, et en Allemagne, en Espagne. En Italie, la crise de l'Inter, je ne dis pas qu'il fait la une de la Gazette à chaque jour, mais presque. Et la Roma, avec tous les rumeurs de Mercato, Zeko apparemment ne va pas partir parce qu'elle a demandé trop d'argent au Chelsea.
Ah oui.
Mais Emerson Palmieri, il a signé et ça va être fait pour 28 millions. La Roma a perdu 3 de ses derniers matchs. Donc Milan récupérait des points sur chaque équipe qui était devant eux.
Ah, mais ils sont encore loin.
Ils sont encore très loin. Mais si la crise de l'Inter et de la Roma continue, tu peux te dire pourquoi pas. Je ne vois pas Milan se qualifier directement en Ligue des Champions. Je vois Milan qui peut bien avancer en Ligue Europa et pourquoi pas arriver en finale de la Coupe d'Italie. Et quand tu arrives en finale de la Coupe d'Italie, t'as un match pour gagner. T'as un match pour sauver ta saison.
Tu voulais nous. Oui, vas-y.
Non, je veux dire, ce qui est terrible, c'est qu'on parle du Milan AC et qu'on s'enflamme alors qu'ils sont encore à 10 points des équipes dont tu as parlé.
Ah oui, ils sont loin.
Et face à la Lazio, c'est la première fois qu'ils ont gagné face à une équipe qui était devant au classement depuis le début de la saison. Ouais. Donc, mais quand même ça commence à bouger les choses.
Il se passe un truc, mais ça demande confirmation. Ouais. Tu voulais nous parler des difficultés de l'Inter et de la Roma aussi.
Bah oui, parce que comme je disais, l'Inter 9 mois sans victoire, c'est un championnat plus deux en coupe. Ça. C'est une catastrophe. Le mercato n'a pas encore rien apporté.
Là, c'est contre Spal qui font match nul.
Enfin, match nul. Et c'est le même scénario du match face à la Fiorentina il y a quelques semaines. C'est-à-dire l'Inter qui mène. Et l'Inter, dans les 30 dernières minutes, s'est mis à 11 derrière. Ils ont peur de ne pas gagner. Et justement, à un plein temps additionnel, arrive le but de l'égalisation. Ça montre qu'une équipe qui n'a pas d'idée, qui n'a plus de courage. Et même si ce soir j'ai eu des infos qui me disent que Pastore, c'est presque impossible.
Oui.
C'est vraiment très très compliqué. L'idée d'aller chercher un joueur comme Pastore qui n'a pas énormément de jeux, mais que j'adore, mais que c'est pas un joueur qui t'échange une équipe comme ça, ça montre que l'idée c'est de chercher quelque chose sur le mercato, mais ils ont pas vraiment ni les moyens et en ce moment ni beaucoup d'idées pour changer les choses.
Ah mais la solution elle est pas à l'extérieur en plus là, quand tu passes 9 matchs sans gagner comme ça, la solution elle est chez toi, faut changer quelque chose chez toi.
Perisic qui a marqué deux fois dans les 18 derniers matchs, elle a marqué un triplé, un doublé, mais Perisic, la lumière s'est éteinte. Icardi qui marque beaucoup moins. Imaginez ce soir, il a mis. J'aime pas beaucoup parler de football réseaux sociaux, mais il met un post sur Instagram et sur Twitter en disant dans la ville, il faut aussi partir.
Ah oui,
tu te comprends pas, ça deux jours à la fin du mercato.
Juste une expression comme ça.
Deux jours avant la fin du mercato.
Je t'ai dit que les supporters de l'Inter, ils ont craqué là.
Ouais, mais il ne peut pas partir maintenant.
Il ne peut pas partir parce que la clause est valable entre les 1 et les 15 juillet seulement. 110 millions, c'est gratos presque.
C'est peut-être juste qu'il avait envie de philosopher ce soir et que le timing est mauvais.
Voilà, c'est pas un bon timing. Imaginez, mais c'est pas seulement le meilleur joueur, le meilleur buteur, c'est le capitaine de l'Inter.
Ça veut dire au mois de juillet, là, si un club arrive et pose 100 millions sur la
110.
Table, il le. Oui,
entre
100 et 110 voilà. À ce niveau-là,
on s'en fout complètement.
Entre les premiers et les 15
juillet. Jean-Louis achète sa baguette 1,10 ou 1,20.
Ouais, voilà, c'est pas pareil.
Ça va pas lui poser un problème.
Quoi que Jean-Louis fasse.
Ça dépend de la qualité de la baguette.
Ouais, voilà, ouais, peut-être que Jean-Louis fait attention quand même.
Là, 110 au mois de juillet, tu prends Icardi.
À 25, la tradition.
Mais putain, c'est une bouchée de pain.
Ouais, déjà.
C'est pour ça qu'ils cherchent des prolongés. Mais
quand même.
C'est combien de temps? Et le Real, ça peut pas les intéresser ou c'est pas assez cher pour eux?
Bah, ça peut intéresser plein de monde à 110 millions.
Icardi s'intéressait pour le mois de janvier.
Attendez, attendez, Fred.
Attendez, c'est pas. C'est une bouchée de brioche.
Ouais.
Oui, c'est de la tradition. Quoi.
Allez,
c'est
Fred, ça peut les intéresser, le Real ?
Non, non, ça les intéressait pour le mois de janvier, mais Zidane a voulu absolument aucune recrue. Mais Icardi était. Mais c'était plus cher au mois de janvier, Simonet.
Parce que la clause n'est pas valable. Elle est valable entre les 1 et les 15 juillet. Donc, si tu voulais payer maintenant, tu n'as pas la clause. Donc, tu dois négocier avec l'Inter. Et l'Inter a renoncé à son meilleur joueur, meilleur buteur et capitaine en janvier et n'aurait pas accepté
donc,
une chiffre si baisse.
C'est le Real à l'attaque, Icardi. Excusez-moi, c'est très mauvais, mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi, je sais qu'il est tard.
Ça choque aucun d'entre vous. 110 pour Icardi, si, il est beau, c'est un joueur de grande classe.
Aujourd'hui, c'est n'importe quoi.
Ah non, c'est un gros.
Quand tu compares avec ce qui est mis maintenant,
c'est ça le problème. On n'a plus référence.
Mais voilà.
Non mais il est si fort que ça. Pour vous, c'est attaquant top mondial. Les yeux fermés.
Oui,
c'est
très
costaud.
Si jamais on mettait 100 millions,
c'est que c'est peut-être pas assez cher. C'est comme les mecs qui peuvent pas acheter une paire de pompes à 50 balles. S'ils mettent
ils disent qu'il y a un truc.
Ils disent c'est pas mon
choix. En regardant les gens vont voir que c'est un 50 €.
Non mais il y a des
stars. Il a raison
Daniel. Je suis sûr que toi, par exemple,
Daniel,
toi, je te fais pas acheter une Citroën, Jean-Louis, par exemple.
Daniel, c'est l'histoire.
Même si on te la donne, tu roules pas dedans.
C'est l'histoire des gars qui s'achètent des
très belles Citroën maintenant.
Bah oui, mais c'est lui qui dit ça, c'est pas moi.
Ne t'occupe pas, tu regardes extérieur.
Non, mais attendez, juste essayez d'écouter un peu tout le monde, sinon on va pas s'en sortir à chaque
Absolument,
fois.
Absolument, c'est exact. Non, mais c'est une histoire tout à fait traditionnelle entre deux oligarques russes qui se retrouvent à Londres, ils ont la même montre, et l'un dit à l'autre, ah, t'as vu, je l'ai payé 50 000, et l'autre qui me dit, attends, c'est que dalle, moi je l'ai payé 75. Donc c'est un peu ça.
C'est un peu ça. 100 millions, Simonet, t'as l'impression qu'il y a, qu'il y a un vice.
Le bazar à la Fédé.
Un vice caché.
Alors 2 minutes, il faudrait 2 heures et 2 émissions complètes. Mais il faut le dire parce qu'aujourd'hui c'est la journée, je pense presque la pire journée de l'année pour de la saison pour le foot italien. Même pire du 13 novembre où on était éliminé de la Coupe du Monde, on s'est pas qualifié. Parce qu'aujourd'hui il y avait les élections de nouveau président de la fédération. Il y avait 4 tours prévus. Les premiers tours, ils faisaient en majorité totale. Après, il fallait arriver à 50,1%. Ils sont jamais arrivés à ça. Et là, dans les derniers tours, les quatrièmes, où il y a seulement deux candidats qui sont restés, on n'est pas arrivé à trouver un président parce que la majorité des votes ont été des votes blanches. C'est triste. Déjà, il faut dire que les trois candidats étaient trois qui faisaient partie du Conseil fédéral qui travaillait avec Tavecchio, l'ancien président de la fédération. Donc, il n'y a aucun changement. Il y avait eu les trois présidentiels élus étaient trois de l'ancien régime, entre guillemets. Rien n'a changé. Ils n'ont pas trouvé des accords. Et donc, on attendait ces jours comme les jours du début du changement. Et c'est un gros pas en arrière. La fédération va être, il y aura un commissaire, quelqu'un nominé par les présidents du CONI, Comité Olympique, qui va trouver une solution, changer la loi électorale, changer plein de choses dans la fédération. Ça fait quand même presque 80 jours que l'Italie était sortie de la Coupe du Monde. On n'a pas encore le président de la fédération, on n'a pas encore le président de la Serie A. Il y avait une intérim, là aussi, un commissaire, et le président de la Serie A, en ce moment, jusqu'aujourd'hui, c'était l'ancien président de la fédération. Imaginez, t'avais cure, donc, c'est toujours lui. On change pas, c'est de la politique. On fait la politique comme si c'était pas les footballs, pas les plus importantes choses, entre les choses moins importantes du monde, et surtout en Italie. Et l'Italie est en train de perdre une occasion, s'est fait ridiculiser encore une fois. C'est une honte, et pour moi, c'est une honte pire de ne pas aller à la Coupe du Monde, parce qu'on est pas été capable de trouver une solution qui aurait fait du bien à tous les footballs italiens. On est encore dans une situation de vieille école, ancien régime, rien n'a changé, et c'est triste, et c'est une honte pour l'Italie de n'avoir rien changé.
Moi, je suis désolé, je vais me faire l'agent de Daniel Riolo, il n'ira pas à la fédération dans cet état-là. Désolé, Daniel, tu ne veux pas l'écrire là-bas.
Si, mais comment
c'est
tu
veux... Il est bon agent, Pierre.
Faut bien conseiller, Pierre.
Comment tu dois avoir l'appui de... soit de
Ils prennent un immigré ou pas?
Si tu as l'appui d'une des fédérations, un des groupes qui votent, la Ligue de Serie A ou les amateurs, non, ou les arbitres.
Thomas, il soutient qui?
Les footballeurs. Lui, il avait les 20% des footballeurs.
Peut-être lui, je peux me démerder pour avoir son soutien.
Bah, je te passe son numéro, tu l'appelles, peut-être ça t'arrive.
Salut, je suis Daniel Riolo, je vais sauver le foot italien. Essaie de me placer.
Pourquoi pas?
Bon, écoute, tu sais, on a vu des histoires plus belles, tu vois. Des histoires moins belles, je veux dire.
Ah oui? Comme quoi?
Bah, je sais pas, des trucs énormes qui arrivent dans la vie.
Ah oui, bien sûr, bah, c'est possible. Oui.
Ah oui,
possible,
oui. Hein.
Bien sûr. Alors, tu voulais juste dire un mot vite fait pour finir sur Buffon?
Il a fêté ses 40 ans. C'était un peu compliqué d'être en Italie cette semaine parce qu'on a parlé que de Gigi Buffon et ses 40 ans. C'est une histoire incroyable. C'est encore un des meilleurs joueurs au monde. Il a été arrivé quatrième au Ballon d'Or, nommé meilleur gardien de la saison dernière. L'Italie a vécu ses 40 ans comme si c'était presque une fête populaire.
Ah oui.
Et à un certain moment, peut-être on a fait un peu trop. Hier soir, invité de Sky Sport, Del Piero disait, moi, quand j'ai fêté mes 40 ans, j'étais sur un terrain à jouer en Inde. J'ai pas eu tout ça. J'attends la fête aujourd'hui pour mes 45 ans, l'année prochaine. Donc, il faut rattraper ça. Mais pour vous dire, Buffon, c'est une légende, même à 40 ans, même aujourd'hui, c'est les blessés. L'Italie, pour une semaine, a parlé de que c'est fête. Et c'était une vraie fête de sport parce que Buffon est aimé.
Hein, oh, c'est bien,
au-delà
bien.
De ce qu'un
footballeur, c'est pour ça qu'on voulait que tu nous le racontes.
Oh ouais, c'est bien.
Allez, dans un instant, l'Angleterre, la vie tranchée de Philippe et la vie tranchée de David Lorto sur l'Allemagne, sur les joueurs français qui bonifient la Bundesliga. Oh. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames, Simone Rovera, David Lorto, Philippe Auclair et Fred Hermel. Il y a plein de choses à aborder dans les 20 minutes qui restent. La vie tranchée de David Lorto, la vie tranchée de Philippe Auclair, les actus en Allemagne, en Angleterre et les transferts. J'aimerais bien qu'on en parle. Il y a pas mal de mouvements à analyser
beaucoup,
dans vos
beaucoup,
différents
beaucoup,
championnats.
Particulièrement en Angleterre, absolument.
Donc on y va tout de suite, la vie tranchée de Philippe Auclair.
Scandaleux, je dis bien scandaleux. Va te faire voir, va voir ailleurs si j'y suis.
Tu sors d'un week-end de cup, Philippe, c'est l'objet de ton avis de tranché.
Oui, écoute, et d'un week-end de cup qui me fait un petit peu désespérer l'état de cette compétition. On n'est pas là, pour faire reluire nos championnats, nos footballs, etc. Mais il y a un développement dans cette FA Cup et qui est un développement très récent qui me fait mal. C'est une épreuve, c'est un trophée qui jusqu'à peu de temps était le plus grand trophée de la saison en Angleterre. Hein, on parle jusqu'à une vingtaine d'années environ, peut-être 25 ans, mais qui conservait quand même une grosse part de prestige. C'est pas le fait que les gros clubs ne la prennent pas au sérieux, ils la prennent au sérieux. La preuve, c'est que la plupart des épreuves récentes, des compétitions récentes, ont été gagnées par justement des gros. C'est plutôt par le fait qu'on commence à voir l'effet de la suprématie financière des clubs de première ligue sur les autres divisions et que ça met en danger quelque chose qui est absolument fondamental quand on aime le football anglais. C'est la pyramide de ce football anglais qui a quatre divisions professionnelles. Et là, ce que j'ai vu ce week-end, Ça a confirmé une tendance qui était déjà significative l'an dernier. Les contrats télé, les nouveaux contrats télé ont commencé en 2016, donc l'argent a commencé à couler encore plus à flot. Du fait de ce fait, les équipes de Première Ligue peuvent maintenant aligner des équipes A prime ou B en FA Cup qui ont coûté à peu près le double, triple, quadruple, le quintuple, le décuple de leurs futurs adversaires, même à 100%. Et du coup, on a un déséquilibre de cette compétition qui est mise en danger. On parle souvent du danger de trop d'argent dans un football. Le football anglais, aujourd'hui, ce fut autrefois le football italien, ce fut le football espagnol, ce fut même le football français. Là, on voit les conséquences au niveau national. Et ça m'inquiète parce que je vois une compétition qui est en train vraiment de perdre son âme et qui est une compétition qui perd son âme et qui est pourtant en elle-même est l'âme du football anglais. Donc c'est plus qu'une sonnette d'alarme, c'est malheureusement un sentiment que j'ai depuis un petit bout de temps et qui s'est confirmé ce week-end où les équipes de division inférieure n'ont tout simplement pas fait le boulot. Voilà, c'est triste, hein.
Oui. Parce qu'elles pouvaient pas le faire.
Ouais, n'ont pas voulu faire le boulot. Ouais.
N'ont pas voulu, ouais. Et se sont dit, c'est peine perdue. Moi, je vois, quand je vois une équipe de Peterborough, par exemple, qui est face à Leicester. Alors, et j'adore Leicester. Je veux dire, de toutes les équipes du milieu de tableau d'Angleterre, c'est vraiment celle qui me séduit le plus avec Claude Puel. Mais quand je vois l'équipe B que peut mettre Leicester face à l'équipe de Peterborough, je me dis, ils n'ont aucune chance. Ça n'était pas le cas il y a encore 4 ou 5 ans. Ouais, ouais. Et c'est ça qui a vraiment changé. Il y a un déséquilibre, le fossé entre les riches et les pauvres. Il est en train de se creuser, pas seulement dans le football, c'est dans le monde entier, hein, nous le savons. Il se creuse dans tous les championnats. Et en Angleterre, il y a la super élite du top 6, et puis il y a la super élite du top 6, la super élite de la première ligue, et puis derrière, j'ai peur que ça n'accroche plus. Et si c'était le cas, ça ferait vraiment perdre beaucoup de son âme au football anglais en général.
Bah écoute, voilà. Mais il y a des mesures que tu peux prendre.
C'est très difficile.
En Espagne, la deuxième division, ici il n'y a que 3 divisions professionnelles, la Primera, la Segunda, qu'on appelle la Liga 1, 2, 3, et la Segunda B, et il y a des mesures qui ont été prises justement pour renforcer la deuxième division, pour que le fossé entre la première et la deuxième soit pas si énorme.
Et le problème, c'est que Fred, regardes le budget d'une équipe de seconde division, de mon équipe, le Real Oviedo, par exemple, et tu le compares à une équipe du milieu de tableau de la Liga, il n'y a pas de comparaison. C'est ridicule.
Combien de budget?
Oh, c'est pas énorme, hein. Ça, c'est mieux maintenant. Mais bon, quand ils sont...
Ouais, on va dire ça tout de suite. Non, mais après, la question de la forme, parce qu'on voyait l'exemple, tu vois, des équipes, en général, les équipes qui montent de deuxième division, qui sont en deuxième division et qui montent en première division, eh ben, il y en a beaucoup qui restent, en fait, parce qu'elles sont bien structurées, parce qu'il y a des moyens pour tout de suite. C'est-à-dire que le fossé est pas si élevé, et donc quand tu montes de deuxième division en première division, tu t'écroules pas tout de suite, quoi, tu vois, parce qu'il y a des assurances qui ont été prises par la Liga, quoi.
C'était pas vraiment ça que je voulais dire, parce que les équipes qui vont monter de Championship en première ligue, généralement, auront les moyens de rester. Je pense à Burnley, par exemple. Tu regardes Huddersfield, ils sont également dans le coup. Brighton se débrouille plutôt bien. Le problème est plutôt pour ce qui est juste en dessous, si tu veux. Il y a tellement une fixation maintenant sur la première ligue et son argent, ouais, que les clubs qui sont en dessous, même s'ils ont des moyens, des clubs comme Wolves, des clubs comme Bristol City, ils ont des moyens considérables, mais malgré tout la comparaison ne tient plus. Un palier a été franchi en 2016 avec le nouveau contrat TV, et je parle au niveau national.
On note cette inquiétude, hein, et on va voir effectivement comment ça évolue. On dit un mot sur les transferts alors.
Il y a beaucoup d'actu, parce que bon, évidemment, vous connaissez Lucas Moura pour Tottenham, je pense, oui, que c'est ça c'est connu. Dan Sturridge, par exemple, est passé de Liverpool à West Brom, décidément, c'est assez extraordinaire. Emeric Laporte, vous en avez déjà parlé, je crois, dans l'after. Ouais. On a Gérard Deulofeu, qui revient en Angleterre, hein, et il va à Watford.
C'est annoncé ce soir, enfin ça va l'être, ou ça a été annoncé ce soir. Son agent Rinesh Kalbara, le mythique agent de Raoul, que tu connais, hein, Jean-Louis, signé ce soir. C'est un bon joueur de Le Féou, mais c'est le typique joueur, on se dit, lui, il va être grandiose. Et puis finalement, c'est un peu coitus interruptus avec lui.
Évidemment, le gros dossier, c'est le fameux jeu de domino entre Aubameyang et Arsenal. Ça semble bon. Ça fait combien de temps que je vous dis que c'est fait? Ça fait 10 jours. La nouvelle qui est la plus étonnante, c'est le fait qu'on aurait Olivier Giroud qui partirait à Chelsea, et il y a beaucoup de sources et sérieuses qui indiquent qu'un accord aurait été trouvé entre Arsenal et Chelsea pour environ 20 millions d'euros, ce qui pour moi est que dalle pour un joueur de la classe de Olivier Giroud, surtout dans le marché, l'état actuel du marché anglais, quel que soit le nombre d'années qui lui reste, quel que soit son âge, 31 ans. Ce qui veut dire qu'on aurait trouvé également une porte de sortie pour Michy Batshuayi, puisque Dortmund ne voulait pas laisser partir Aubameyang s'ils n'avaient pas un remplaçant. Mm-hmm. Chelsea voulait se débarrasser de Batshuayi et voulait récupérer un avançant. Vous voyez des espèces de jeux en triangle qui s'est joué à l'écossaise. Donc Batshuayi, a priori, c'est ce vers quoi on se dirige. Batshuayi à Dortmund, Giroud à Chelsea, Aubameyang à Arsenal. Et puis pour clôturer ce petit tour du mercato, je pense que Simone en a dit un mot, c'est Emerson Lake-Palmieri qui va donc arriver à Chelsea, a priori. Chelsea donc qui a dit adieu à Dzeko, mais qui avait toujours un œil sur le championnat d'Italie. Voilà où on en est pour le moment pour les grosses nouvelles du mercato. Il y en a beaucoup d'autres moins importantes. Si on a le temps, et ça peut faire le passage à l'ami Lorto.
Oui.
Bien évidemment, c'est la mauvaise nouvelle du week-end, c'est Leroy Sané de Manchester City, joueur magnifique.
Oh, quelle faute.
Mais victime d'un attentat, d'une agression dont le joueur s'est excusé, mais bon, ça va faire du bien, bien évidemment, à Leroy Sané. Un match qui était scandaleux au niveau de l'engagement physique, entre guillemets, à l'anglaise, entre guillemets, de Cardiff City. C'était en fait des voyous, il n'y a pas d'autre mot. Et Leroy Sané...
C'est l'âme de la cup, Philippe.
Non, tu vois, vous voyez les tacles,
les mecs sont pris un peu pour des rugbyman.
Non, les rugbyman, s'ils faisaient ça, là, ils partent avec carton rouge. À mon avis, ils vont pas jouer pour un bon bout de temps. Là, en l'occurrence, Leroy Sané, le problème, c'est qu'il était touché au ligament à la cheville gauche. On pensait que c'était pas aussi grave que ça, mais là, maintenant, il n'y a pas de date de retour, alors que Pep Guardiola avait indiqué 3-4 semaines. Et Lorto, tu as vu ce que la Fédé allemande, c'était d'ailleurs fendu d'un communiqué ou d'un tweet. Sur la question, en disant pas touche à mon Sané, grosso modo.
Et même Guardiola s'est un peu plaint du traitement de ses joueurs.
Il s'est pas plaint du traitement de ses joueurs, il s'est plaint du traitement des joueurs, ce qui est une nuance qui est d'importance. Mmh. Et je crois qu'il, pour une fois, c'est pas pour une fois d'ailleurs, il s'en est plaint avec raison. En Angleterre, on en a fait des tonnes sur le crachat de Arthur Masuaku, bon, qui est un geste vraiment dégueulasse et qui n'a pas sa place sur un terrain de football. Mais un crachat, ça n'a jamais tué personne. Par contre, on peut finir la carrière d'un joueur avec le genre de tacle de Joe Bennett. Il aurait pu terminer avec tibia péroné fracturé, Leroy Sané. Ça faisait franchement mal au cœur. Et ça fait mal au cœur de perdre un joueur aussi épatant que ce qu'on a vu Sané pour Manchester City depuis le début de la saison. Espérons que ce soit pour seulement quelques semaines et pas plus loin.
Donc on peut noter que Guardiola et Jean-Michel Aulas sont d'accord. Donc il faut protéger les artistes, il faut protéger les...
Jean-Michel Aulas veut protéger Fekir. Guardiola veut protéger les joueurs.
On l'a dit à Guardiola, et vous savez que Guardiola n'est pas nécessairement quelqu'un dont je suis un fan absolu. On lui a dit, mais oui, mais vous parlez toujours de vos joueurs, machin, de Bruyne, de Sané, Sterling. Il a dit, non, je parle des joueurs en général.
Et je pense que là. C'est ce qu'il faisait en Espagne aussi.
Il a absolument raison de le faire.
Oui, mais
et de
ça c'est toujours délicat parce que sur le fond, c'est comment veux-tu ne pas être en accord? Oui, ok.
T'as vu le match? Mais en fait, on comprend pas ce match.
Non, mais c'est normal. Mais ça, c'est une réaction sur la passion et sur l'instant. Évidemment, quand tu vois ça, tu te dis ok. Mais de quelle façon tu veux procéder? Le mec,
il y a un règlement, le mec
grosse faute, il prend carton rouge. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Alors le règlement, il faut le changer. C'est-à-dire que la faute a été signalée. C'était pas évident au début quand tu es placé dans l'angle de l'arbitre, Monsieur Lee Mason, tu peux pas voir exactement là où il fait la faute. Quand tu la revois,
mais qu'est-ce que tu changerais dans le règlement pour aller dans le sens d'une protection? Je comprends
faute,
pas.
Moi je vais te dire, on pourrait en reparler, mais il faut laisser de la place à l'ortho aussi. Il s'agirait par exemple dans ce cas-là où il a été puni d'un carton jaune, que le carton jaune soit résilié, que ce soit un rouge direct, passage devant la commission de discipline, avec possibilité de sanction.
Mais ça n'est pas en place en Angleterre. Mais en gros, c'est parce que on juge que l'action méritait rouge, ça d'accord. Mais protection, ça veut dire quoi? Protection, ça veut dire que t'empêches le mec de tacler et tout.
Non, c'est à chaque fois pour dissuader, c'est tout.
Et donc on revient à la même chose.
C'est qu'il faut dire après 4 matchs
là ou sur le moment.
Mais ça, je suis pas sûr que ça augmentera la protection, ça.
Allez, messieurs, on prend la passerelle.
Après, moi, je veux bien que les mecs prennent plus, mais c'est quand t'as le match et quand t'es dans le feu de l'action, tu vas pas vraiment penser à ça.
Et puis on retombe dans la même chose.
On prend la passerelle Angleterre-Allemagne,
les commissions, etc., etc. La passerelle pour l'Allemagne. Allez, c'est parti.
Ah, l'ortho.
Oh bah écoute.
Et David, tu veux nous parler des Français de Bundesliga?
Et oui, je mûrissais cet avis tranché, figurez-vous, messieurs, depuis quelques temps, parce qu'il y a quelques perles en Bundesliga dont on parle pas suffisamment en ce qui concerne les joueurs français, et c'est un événement du week-end. L'un des beaux buts du week-end qui a été inscrit par Kingsley Coman dans la victoire du Bayern 5-2 contre Hoffenheim. C'est ce but de Kingsley Coman, très Franck Ribéry, avec deux dribbles avant de frapper et de marquer ce but magnifique, qui m'a inspiré cet avis tranché du soir, qui consiste à dire que les Français, les joueurs français, et je vous en ai sélectionné quatre ce soir, bonifient, comme tu disais Jean-Louis, la Bundesliga. Alors, Kingsley Coman est en train maintenant, je trouve, je crois, de prendre la place qui lui a été préparée, d'assumer petit à petit une vraie qualité sur le terrain et une vraie qualité humaine pour remplacer Franck Ribéry, qui va petit à petit évidemment commencer à s'éteindre. Je suis pas en train de dire qu'il est en train de s'éteindre là aujourd'hui, Franck Ribéry, mais vous comprenez l'idée, c'est que on a au Bayern cherché à préparer une succession pour les deux ailiers plus que trentenaires que sont Ribéry et Robben, et il me semble ces derniers temps que Kingsley Coman est en train de, eh ben, de lui aussi de mûrir, de trouver une vraie cohérence et une vraie qualité dans son jeu offensif et aussi dans le travail qu'il peut y avoir à faire dans une équipe comme le Bayern. Donc Kingsley Coman fait partie des Français qui va falloir suivre de près très sérieusement cette Bundesliga, et il y en a d'autres dont on parle très peu, et j'ai envie de rendre hommage à deux d'entre eux ce soir, en plus du quatrième qui est Franck Ribéry, qui pour moi continue d'être essentiel dans cette équipe du Bayern. Ça, on pourrait en parler, on en reparlera lorsque les matchs très importants de la saison arriveront. Mais ce sont deux joueurs moins connus. Le premier d'entre eux, et je vais faire écho à ce que disait Daniel tout à l'heure sur Cavani un peu plus tôt dans l'émission, en disant que c'était un vrai talent que d'être un simple buteur, entre guillemets. Eh bien, il y a un simple buteur français qui a une maman ivoirienne et un papa français qui joue à l'Eintracht Francfort, c'est Sébastien Haller. Sébastien Haller, excellent joueur, qui marque à peu près un but tous les deux matchs, qui est un très très beau total, qui a été formé à Auxerre, qui est passé deux ans à Utrecht aux Pays-Bas. Voilà, deux ans.
Et là aussi, il avait ce ratio. L'espoir.
Oui, c'est vrai qu'il s'est arrêté à ce stade-là pour l'instant en équipe nationale. Il avait ce ratio-là à peu près, hein, aussi aux Pays-Bas, à peu près 40 buts en 80 matchs avec Utrecht. Et puis, il est en train de vraiment commencer à faire les gros titres avec Francfort, parce que cette saison, ça marche très fort pour lui.
On a vu un reportage sur lui dans Transversal, excellente émission du dimanche 13h.
Eh ben voilà,
c'est un beau bébé, hein, le garçon.
Si, oui, c'est un attaquant massif. Qui est capable de marquer avec toutes les parties de son corps, si je puis dire, autorisé dans le football.
Et bon, si Francfort lui aussi fait plein de choses avec toutes les parties de son corps.
Si Francfort est un prétendant à la qualification en Ligue des Champions en fin de saison, ils sont actuellement dans les quatre premiers. C'est pas par hasard, quoi. C'est aussi parce que ce joueur-là répond aux attentes, est capable de réceptionner les centres, de marquer des buts de raccro. Et en plus, j'ajouterai rapidement sur Haller, ce qui gâche rien, c'est un joueur qui a des vraies valeurs fondamentales de famille, de stabilité, de raison,
c'est
vis-à-vis
ponctuel, il paraît un peu.
Des sirènes de l'argent. Oui, mais ça paraît un peu cliché, mais c'est pas si mal. Le quatrième auquel je voulais faire allusion ce soir, c'est le jeune Michael Cuisance. Alors ça ferait plaisir à
Gilbert Brugmois. Ah, lui, je connais pas, c'est qui ?
Cuisance.
Ah, si, Cuisance, né à Strasbourg. Formé à Nancy. 18 ans, merveilleux milieu défensif de Mönchengladbach.
Donald Plaisance, mais pas Michael Cuisance.
Ouais, Michael Cuisance, c'est un jeune de Strasbourg, formé à Nancy.
Il est passé par Stuttgart, je crois. Ouais, on dirait que c'est pas un vrai nom. T'es sûr de ça?
Cuisance, ouais. Cuisance. Vous pouvez préparer les jeux de mots, parce qu'il est en train, de s'imposer dans une équipe aussi essentielle dans le paysage du football allemand que Mönchengladbach. 18 ans, il aura 19 ans, je crois, au mois d'août. L'entraîneur Dieter Hecking, qui est quand même pas le premier entraîneur venu en Allemagne, l'a installé dans le milieu défensif à deux qui fonctionne bien avec Gladbach, et c'est un joueur qui non seulement est très bon défensivement, mais capable aussi de distiller de super passes vers l'avant. Ça peut être un joueur, il est très tôt encore pour en parler, il a 18 ans, mais ça peut être un joueur qui a un très bel avenir.
C'est un des meilleurs de sa génération, Lorto, et c'est un joueur qui voulait partir de Nancy depuis quasiment deux ans.
D'accord.
Parce que très sûr de lui.
Et très précoce. Alors après, voilà. Il a l'avantage, là, de tomber dans un club où il peut être à la fois cadré et peut franchir un vrai palier, un vrai pas en avant sportivement. Et je pense que c'est un joueur qu'on peut commencer à suivre sérieusement, parce que si Gladbach fait aussi une belle saison, il fait partie des joueurs qui valorisent ce club. Voilà quatre Français ce soir auxquels je voulais rendre hommage et qui me permettent de dire que.
Il y a un point mercato, là. Donc, Aubameyang à Arsenal.
Attends, on l'a fait en la nuit déjà.
Bah, il est plus que jamais question de l'arrivée de Michy Batshuayi. Alors, je voudrais savoir auprès de Philippe si.
Tout à l'heure, ben voilà, faut suivre. Non, mais Batshuayi, ça va bien pour lui, qui a marqué un doublé ce week-end avec Chelsea, à qui on était début pour la saison, mine de rien, en étant, en décollant à peine du banc. Et
personne n'a parlé de ce que ça occasionnerait pour la Casette, alors.
Pour la Casette, on y reviendra.
Arsenal,
Aubameyang. Ça, on est bien d'accord. C'est un petit peu compliqué.
Vous en avez parlé, on n'a pas posé la question essentielle.
Enfin, pour la Casette,
on en reparlera quand ça sera fait.
T'as aussi eu un départ à Arsenal, quoi. Faut le pallier.
Oui.
Mais Aubameyang, c'est une pointe. Ah bah,
Giroud, c'était quoi?
Il a tout fait pour ne pas vouloir être joueur de côté, c'est pas pour y retourner. Donc il vient pour prendre la place de la Casette.
Tu vas jouer à deux avec la Casette Aubameyang. Sanchez est parti.
Ça va être compliqué. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a un autre sujet que tu vas aborder, dont on a déjà parlé?
Non, ça va aller, merci.
Bon, bah, en même temps, on arrive au bout. On peut même pas parler de Dortmund qui gagne plus un match, là, David. Qui gagne toujours pas un match.
On fera le bilan en fin de saison. En tout cas, c'est une époque qui se termine pour Dortmund parce qu'Aubameyang avait quand même enflammé les 80 000 personnes du Signal Iduna Park et c'est vraiment la fin d'une époque et ça se termine un peu. C'est le fameux coitus interruptus de Fred Herbel aussi quelque part Aubameyang à Dortmund parce que c'est une symphonie inachevée, me semble-t-il.
Très bien. Bah, on va rester là-dessus. C'est magnifique.
Merci David.
Merci Fred, Philippe, Simonet.
Merci. À très vite. On a une journée de championnat qui arrive dès demain.
Et ben parfait.
On vous rend. Et beaucoup de Français de Leganés parce qu'il y a plein de Français sont très contents qu'on ait parlé de ce club ce soir.
Et bon, les salut. Pierre, merci. À la semaine prochaine.
Merci Jean-Louis. Ciao, ciao.
Daniel, tu reviens toute la semaine après les matchs de la Coupe de la Ligue, les demi-finales. Et puis, demain dans Team Duga, ne ratez pas 18h, le retour de Luis Fernandez sur RMC. Ça va parler formation du PSG. À demain.
RMC, le super football show, l'After Foot.